C'est l'actu,
la quotidienne d'information sur Radio Alpa,
présentée par Robin Hulin.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est d'actu. Aujourd'hui, je reçois Christophe Cougnil, adjoint au maire du Mans, délégué à l'urbanisme et aux grands projets de la ville, également vice-président de Le Mans Métropole. Bonjour.
Bonsoir, bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc on va justement s'intéresser aux différents chantiers d'urbanisme et de rénovation qui auront lieu au Mans dans les prochaines années. Vous avez présenté ces projets le 30 mai dernier pour le cœur de ville, comme vous dites. Il y en a qui sont déjà lancés, d'autres qui sont encore à l'état de réflexion. Donc on va en parler en détail, mais d'abord Christophe Cougnil, qu'est-ce qui motive la municipalité à lancer autant de projets de rénovation en plein cœur de sa ville ?
Eh bien, une ville, c'est un organisme vivant. C'est-à-dire que si on prend la ville à l'époque romaine, à l'époque médiévale, à l'époque moderne, elle n'a rien à voir avec la ville d'aujourd'hui. Une ville doit toujours se reconstruire sur elle-même. Il y a des endroits qui n'ont plus le même intérêt, des bâtiments qui peuvent être vieillissants, qui ne sont plus forcément adaptés à l'usage actuel. Et donc, il faut toujours chercher à moderniser sa ville, sans oublier d'où on vient, mais aussi en tenant compte des nouveaux enjeux. Et ces nouveaux enjeux, c'est notamment tout ce qui tourne autour des questions d'environnement, des questions de transformation du bâti pour consommer moins d'énergie, pour être accessible aux personnes handicapées. Et lorsque l'on prend tous ces éléments un par un, on se rend compte qu'on a quand même un certain nombre de sites qui aujourd'hui ont vieilli et qu'il faut repenser autrement.
Justement, un des principaux chantiers, c'est la rénovation du Palais des Congrès et de la Culture. Il a ouvert ses portes il y a 40 ans maintenant, et alors il commence à vieillir, il n'est plus très attractif. Quel est le projet de rénovation que la ville a autour de ce bâtiment ?
Alors, c'est l'exemple type d'un très beau projet qui avait été mené dans le premier mandat de Robert Jarry. Donc, je crois que l'inauguration, c'est en 1983, il y a donc 40 ans, et c'est un bâtiment qui, sur un certain nombre d'aspects, a vieilli. Alors ça peut être des aspects techniques, par exemple en termes de chauffage, en termes de toute une série de ce qu'on peut appeler dans un bâtiment les fluides, l'eau, l'électricité, etc., où il y a des mises aux normes à faire. Mais ce n'est pas le plus gênant. Le plus gênant pour ce PCC, c'est qu'aujourd'hui, il a perdu son attractivité. On est à une ville à une heure de Paris, on devrait recevoir beaucoup de congrès. Un congrès pour la ville, c'est intéressant, parce que d'abord, c'est des visiteurs qui viennent et qui peuvent avoir envie de revenir. C'est ensuite des nuitées dans les hôtels, des repas qui sont pris dans la restauration. Ça fait travailler toute une série de personnes, d'entreprises. Et donc, les congrès, c'est très important pour l'économie locale. Or, aujourd'hui, on ne reçoit plus de congrès. Parce qu'un congrès se finance d'abord par les expositions. Voilà, vous êtes un congrès, je sais pas, de personnel médicaux, vous avez plein d'entreprises dans le domaine de la médecine qui prennent un stand, qui viennent vous présenter leurs produits, et le fait de prendre un stand, ils le louent et ça finance le congrès. Or, aujourd'hui, nous, on ne peut pas faire ça au Mans. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient en congrès au Mans, il n'a quasiment pas d'espace d'exposition. La deuxième difficulté pour accueillir des congrès aujourd'hui, c'est que les congressistes, souvent, vont d'abord avoir des grandes réunions où ils vont être très nombreux, puis ensuite, ils ont besoin de salles plus petites. Et par exemple, nous, on n'a pas de salle de 500 places qui peut répondre à ce besoin. Et donc, toute l'ambition, c'est de redonner l'attractivité au Palais des Congrès en le transformant, c'est-à-dire en lui rajoutant des espaces d'exposition qui seront construits en aplomb de la butte du greffier où est construit le Palais des Congrès et qui donneront à voir sur la Sarthe et le quartier Anatole France qui va être construit juste derrière. C'est la construction d'un nouvel amphithéâtre de 500 places à la place de l'actuelle maison des associations et des syndicats, et c'est aussi une petite extension du Palais des Congrès sur son parvis pour pouvoir accueillir l'administration, les expositions, etc. Tout ça dans le cadre d'un Palais des Congrès qui est repensé. Le bâtiment va être complètement purgé, c'est-à-dire on va enlever tout le système de chauffage, tout. On va le mettre à nu pour pouvoir en refaire presque un neuf, parce qu'au bout de 40 ans, notre bâtiment est en bout de course.
Alors justement, la maison des associations, est-ce qu'elles vont déménager ? Est-ce qu'on connaît le nouveau lieu de ces organismes ?
Alors, la maison des syndicats et associations abrite, comme son nom l'indique, à la fois les syndicats et les associations. Alors, les organisations syndicales, qui ne sont pas toutes très bien logées, il y en a qui sont vraiment très mal logées, vont toutes être regroupées dans un bâtiment que l'on a acheté à Enedis, sur la rive ouest de la Sarthe, rue Jean Rondeau, à côté de la maison de santé pluridisciplinaire Armand Saffray qui est en travaux et qui sera livrée l'année prochaine. Et donc les syndicats vont pouvoir déménager là-bas dans des conditions de travail qui vont être bien meilleures pour la très très grande majorité d'entre eux, parce qu'ils sont aussi, il faut le dire, dans un bâtiment qui est vieillissant et plus forcément adapté à leur activité. Et puis, certains sont même éclatés en plusieurs sites. Les associations, elles, vont être regroupées dans un bâtiment que nous sommes en train d'acquérir en plein cœur de ville, pas très loin de la rue Nationale, mais je garde la primauté de l'annonce du lieu précis aux associations que l'on voit la semaine prochaine pour leur annoncer le projet qui est le nôtre. Donc, on a ces deux équipements à réaliser dans un délai assez rapide, d'ici l'été 2025, de façon à pouvoir lancer les travaux du PCC à l'été 2025.
Quel est le coût de, ce projet pour le Palais des Congrès ?
Alors, le Palais des Congrès, c'est une opération qui est globalement portée, totalement portée par le Mans Métropole. On est sur une opération en coûts travaux à peu près à 55 millions d'euros. Mais à côté de ça, il y a toutes les prestations intellectuelles et tout ce qui va avec. Et on va être sur un chantier qui va être pas loin de 70 millions d'euros, mais qui est globalement en deçà, par exemple, du coût de la construction de l'espace culturel des Jacobins ou du stade Marie-Marvin.
Alors, de quelle manière ce nouveau Palais des Congrès doit permettre de dynamiser davantage le centre-ville ? Est-ce que la question de la piétonnisation, par exemple, est évoquée ?
Alors non, on ne va pas piétonniser l'espace qui va au centre-ville, au Palais des Congrès. Mais il est clair que l'espace du Palais des Congrès sera piétonnisé avec un parvis haut reliant l'amphithéâtre de 500 places qui sera à la place de l'actuelle Maison des syndicats et associations et le Palais des Congrès, et un parvis bas, plus sous la forme d'un jardin. Après, devant le Palais des Congrès passe ce qu'on appelle une chronoligne, c'est-à-dire une ligne de bus à haut niveau de service qui va permettre aussi de redessiner la rue, mais on ne va pas pouvoir piétonniser les accès au Palais des Congrès. Par contre, on a l'ambition de piétonniser à terme toute la rue du Port, et on voit bien que quand on est dans la bas de la rue du Port, on n'a plus forcément beaucoup de mètres à faire pour rejoindre le Palais des Congrès, par exemple.
Alors, à combien de temps est estimée la fermeture de ce Palais des Congrès ?
Oh, vous savez, c'est un chantier qui va être quand même lourd, compliqué. On est bien sur 3 ans de travaux minimum. Donc, s'il ferme à l'été 2025, je pense que c'est une livraison dans le courant de l'année 2028-2029. Alors, il est possible aujourd'hui, la décision n'est pas encore totalement prise, qu'il ferme plus tôt. Peut-être qu'on ne fera pas de saison 2024-2025, de façon à pouvoir commencer déjà des travaux à l'intérieur, ce que j'appelais tout à l'heure les opérations, vous savez, de purge du bâtiment, de l'enlever, le système de chauffage actuel, l'électricité, et pouvoir commencer peut-être les travaux à l'intérieur. C'est aussi un bâtiment qui est très amianté, parce qu'on utilisait ce produit à l'époque, et donc il y aura un travail de désamiantage qui sera important. Donc il est probable qu'il ferme en septembre 2024 avec des travaux à l'intérieur, mais les vrais travaux extérieurs plutôt à l'été 2025.
Donc s'il y a une fermeture de 3 ou 4 ans, de quelle manière la ville compte réorganiser un peu sa programmation culturelle ? Est-ce qu'il y aura davantage de liens avec les Quinconces et les Spales, ou peut-être même Antares ?
Alors, il faut travailler avec les équipements culturels que l'on a, en effet, pouvoir accueillir peut-être plus de choses au Quinconce, à l'Espal, à Antares. Il y a aussi le forum qui pourrait retrouver une vocation de spectacle au niveau du centre des expos pour pouvoir accueillir un certain nombre de choses qui seraient délocalisées. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on est habitué à recevoir au Mans, des artistes, des pièces de théâtre, des spectacles. Là, on va peut-être être un peu orphelin pendant 2-3 ans, mais c'est difficile de faire des travaux en laissant le lieu ouvert.
Alors, la ville du Mans est aussi en train d'acquérir plusieurs bâtiments, comme celui d'Orange, de la Mutuelle Générale, pour créer un pôle culturel. C'est-à-dire, expliquez-nous.
Alors, en fait, pour que ça parle bien à vos auditeurs, on va essayer de situer cet îlot dans la ville. Tout le monde voit où est la médiathèque Aragon. Elle est située entre la rue Barbier et le boulevard de Morieux. Donc, il ne s'appelle plus de Morieux à cet endroit-là, rue Paul Courboulet. Eh bien, quand on prolonge en allant vers le centre-ville, on a juste à côté un îlot où historiquement se trouvaient les bureaux et le site d'Orange. Et donc, nous allons nous rendre acquéreurs de l'ensemble de cet îlot qui doit permettre demain de pouvoir développer à peu près 27 000 m² de surface utile pour des projets. Et donc, tout le travail que l'on a à faire aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va installer ici. Donc, il y a déjà deux choses qui sont actées. C'est le conservatoire de musique, la MJC Jacques Prévert et donc Radio Alpa, mais il reste de la place pour d'autres équipements qui pourraient venir compléter ce lieu. Ça peut être des équipements culturels, ça peut être aussi héberger des services de la collectivité ou autre. On est en train d'affiner cela. Mais ce que l'on veut, c'est que ce pôle que l'on va créer, il est un lien avec la médiathèque. Médiathèque, inauguration 1989, un bâtiment qui donne des signes de faiblesse très importants et qui est un gouffre financier d'un point de vue énergétique. Une salle des concerts qui est totalement à refaire. Voilà, c'est le cycle de la vie des bâtiments. Et donc, on souhaite faire tout ça dans un seul et même projet, de façon à ce que ces projets se parlent entre eux. Notre souhait, ça serait même que la rue Julien Pêche qui sépare aujourd'hui cet îlot de la médiathèque soit fermée à la circulation, soit végétalisée, qu'on crée des liens et qu'on ait ici un vrai pôle culturel qui se situera en fait en bas de la rue du Port et qui permettra de faire descendre le cœur de ville vers la rivière. Là, il y a un beau projet à mener, mais il y a encore beaucoup d'études à réaliser.
J'allais vous le demander justement sur la MJC Prévert. Donc, la MJC Prévert et Radio Alpa pourraient déménager ou déménageront dans cette partie du Mans ?
Notre souhait, c'est qu'ils déménagent là-bas. Tout simplement parce que les locaux dans lesquels vous êtes aujourd'hui sont des locaux, alors là, eux, qui n'ont pas 40 ans, mais qui ont plusieurs siècles, qui ne sont plus du tout adaptés d'un point de vue énergétique, et notamment d'un point de vue d'accès des personnes handicapées. On peut faire ce qu'on veut, le studio de Radio Alpa, on n'arrivera jamais à le rendre accessible à une personne en fauteuil. Or, on doit le faire par la loi. Et donc, le souhait, c'est de se dire qu'on offre à la MJC la possibilité de sortir un peu de ce bel écrin qui est la cité Plantagenêt, mais qui l'enferme un petit peu parce qu'il n'est pas simple d'accès, pour le mettre dans un grand pôle culturel en lien avec les autres grands équipements culturels de la ville. Donc je pense que c'est un élément très important. Et après, il faudra réfléchir sur ce qu'on fait du bâtiment actuel de la MJC. Mais la collectivité n'aura pas forcément intérêt à le garder. On pourra le vendre à un partenaire privé qui en fera probablement quelque chose de plus efficace que nous.
La question que beaucoup de Mansots se posent, si ce projet se concrétise pour la MJC Prévert, quel est l'horizon, quelle est la date fixée, s'il y en a ?
On est au prochain mandat. Très clairement, aujourd'hui, on a acquis la moitié d'un bâtiment, l'autre moitié, on doit l'acquérir. Ensuite, il va falloir passer par différentes étapes, faire une programmation, c'est-à-dire choisir ce qu'on y met. Ensuite, ça passe par un jury d'architectes, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs architectes qui vont plancher, nous faire des projets, on en choisira un, et ensuite on rentre en phase étude, permis de construire, et ça prend du temps. Globalement, il ne faudra pas se mentir, on en a pour au minimum 3 ans avant de présenter un projet concret, et ça veut dire que par rapport au déménagement du conservatoire, de la MJC ou la rénovation de la médiathèque, il ne se passera rien avant 2026. Mais ce que je souhaite, moi, c'est qu'à la fin du mandat municipal actuel, véritablement, on ait un projet qui soit validé par tout le monde et qui puisse se lancer au mandat futur, bien sûr, si les Mansots le confirment lors des élections.
Alors, un chantier déjà lancé, le nouveau campus de l'Université du Mans, centre-ville près de la gare. Où en est-on aujourd'hui de ce chantier ?
Alors ça aussi, c'est un chantier très complexe. En fait, quand vous voyez, quand chacun voit la gare sud, il reste, mais personne ne s'en rend compte, un grand terrain vague qui se situe entre les immeubles les plus modernes et l'ancien hôpital psychiatrique qui a été rénové et transformé en logement. On est là sur un site extrêmement important, je crois que de mémoire qu'on a 9000 m2, qui doivent permettre demain d'accueillir le deuxième campus de la fac. Donc, il faut choisir quel type de formation on souhaite y accueillir. Et ça ne sera pas qu'un campus. Il faut y mettre du logement, il faut y mettre de l'activité, du logement étudiant, un restaurant universitaire. Enfin, il y a toute une série de choses. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer ce qu'on appelle un plan guide. Le plan guide, c'est les grandes orientations d'urbanisme général qui vont permettre de définir le visage qu'aura ce futur site. Et l'un des sujets sur lesquels on est en train de plancher, c'est par exemple comment on relie ce site au cœur de ville. On voit bien que quand on est à la gare Nord, si on veut aller à la gare Sud, c'est quand même pas simple. Soit on prend le boulevard de Morieux, qui est quand même pas le boulevard le plus agréable de la ville, et donc il faut faire un grand détour. Soit il faut passer par le pont du Bourbelais, qui passe sous la voie de chemin de fer et qui aboutit au niveau de la rue Henri Lefeuvre, lycée Yourcenar. Là aussi, même s'il va être looké, ce n'est pas le meilleur endroit. Et sinon, il faut passer sous le tunnel de la gare, qui a été coupé en deux, puisqu'il y a une partie de guichet qui a été mis. Et donc, on se dit, on va faire un campus, mais en même temps, il va être coupé du reste de la ville. Et donc, l'une des réflexions qu'on a en ce moment, c'est comment on va passer au-dessus des lignes SNCF avec une passerelle pour les piétons et les vélos, par exemple. Il y a un bâtiment qui est en train d'être rénové, Gare Sud, où il y a un immense porche, ça fait un immense trou, qui était prévu en fait pour faire passer des voitures sous ce porche, eh bien demain, ça peut être le lieu d'atterrissage d'une passerelle qui permettrait de relier ce campus au reste de la ville. Et ça posera la question comment on retraite d'ailleurs tout ce qui est en gare nord, parce qu'entre le sex shop, les kebabs, etc., c'est pas forcément l'endroit le plus agréable quand on arrive en ville. Donc on voit qu'on est sur une opération d'urbanisme qui là aussi va prendre du temps. Et alors depuis que je vous parle, j'ai l'impression de toujours dire que ça va se faire, ça va être long. Mais le temps de l'urbanisme est un temps très long.
Est-ce que ce sont des choses qui n'étaient pas forcément prévues dans ce projet de campus ? Le pont, l'accès.
Oui, en fait, quand on a commencé à dire qu'on mettait le campus là-bas, on n'a pas du tout réfléchi à cette question. Et c'est au fur et à mesure qu'on avance, on se dit, mais oui, mais c'est bien beau, mais les étudiants, ils viennent comment ? Si c'est tout le monde à passer par le tunnel de la gare, ça ne le fait pas. Et donc, de fil en aiguille, de façon un peu empirique, au fur et à mesure qu'on découvre les dossiers, qu'on s'en imprègne, bah, des fois, on se rend compte qu'il y a d'autres investissements qui seront nécessaires. Et donc, il faut toujours réfléchir l'urbanisme d'un point de vue d'ensemble. Quand on touche à un endroit, ça peut avoir des incidences à un autre endroit et donc ça oblige d'avoir cette vision d'ensemble de la ville.
C'est un campus qui doit permettre surtout de désengorger le premier campus ou alors permettre d'attirer plus de jeunes au Mans.
Je dirais les deux. Il y a un certain nombre de formations qui sont sur le campus historique dit de Vaurouzé, route de Laval, qui aujourd'hui manque clairement d'espace et qui pourraient, demain, si on libère des bâtiments là-bas, ça peut permettre de développer d'autres formations. Par exemple, je ne sais pas, imaginons en sciences humaines qu'on aimerait développer de la sociologie, de la psychologie. On pourrait peut-être mettre ça à Vaurouzé, mais du coup, ça signifie qu'il y a peut-être une autre partie de l'université qui devrait aller au deuxième campus, peut-être, je ne sais pas, la faculté de droit, on sait qu'il y a beaucoup de profs de la fac de droit qui viennent de Paris, la proximité avec le train pourrait être intéressante, mais si c'est uniquement faire ça, ce n'est pas intéressant. L'idée, c'est aussi de faire venir de nouveaux étudiants et de passer à peu près de 12-13 000 étudiants aujourd'hui à 20 000 étudiants demain en termes d'attractivité. Alors, c'est l'attractivité de la ville, c'est aussi faire en sorte que nos jeunes ne partent pas ailleurs pour faire leurs études, et puis c'est aussi une réponse aujourd'hui à ce que nous disent par exemple le maire d'Angers. Le maire d'Angers a des écoles qui veulent s'installer à Angers. Il dit mais non, j'en veux plus, j'ai trop d'étudiants par rapport à ma population globale.
Et donc comment la ville essaie de renforcer ce lien
avec
Angers ?
Et donc nous on va travailler pour repérer des écoles qui voudraient venir s'installer au Mans. Il y a déjà quelques pistes qui sont lancées et qui pourraient déboucher, je l'espère, assez vite.
Comme quelles écoles, quels secteurs d'études ?
Il ne m'appartient pas forcément d'en parler, c'est pas ma délégation. Moi je construis les bâtiments, après vous poserez la question à Fabienne Lagarde. Et puis vous savez, on est dans des périodes de discussion, de négociation. Et souvent, ce n'est pas forcément des choses qu'on étale au grand public.
On va s'intéresser à un autre sujet, Christophe Kounil. C'est un sujet qui a fait pas mal parler ces derniers mois dans le centre de ville, dans le cœur de ville plus globalement, au Mans, la chapelle Saint-Joseph. Comme vous le savez, elle est censée être détruite. Vous êtes favorable, vous, à sa destruction. Vous aviez dit sur BFM que cette chapelle n'a aucun charme. Mais alors, un collectif de riverains s'est formé pour s'opposer à sa destruction, pour interpeller les élus. Où en est-on de ce projet aujourd'hui ?
Moi, je confirme que cette chapelle, elle n'a aucun charme. Il faut aller la voir, hein. Une chapelle dont le cœur est fait en parpaing, moi j'ai un peu de mal. Après, ce n'est pas un dossier qui regarde la ville, je serais tenté de dire. C'est une chapelle qui appartient à une congrégation religieuse et au diocèse. Le collège appartient lui-même à une congrégation religieuse et c'est de l'enseignement catholique, il est en lien avec le diocèse. Donc moi, j'ai envie de dire qu'il appartient au diocèse de décider avec la congrégation religieuse de ce qu'il souhaite faire de ces bâtiments. Si demain, le diocèse souhaite détruire cette chapelle, nous, on n'y a aucune objection. Mais la ville n'est pas moteur, ce n'est pas un projet de la ville, c'est un projet du collège qui a besoin de s'agrandir. Donc très clairement, la balle est dans le camp du collège. Et dans le camp, la balle est dans le camp du diocèse, c'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire et nous on suivra parce que derrière il y a un intérêt aussi collectif à faire en sorte que dans ce collège, moi je suis un enseignant de l'école publique et pour autant là je vais défendre l'enseignement privé, ils sont à l'étroit, ils ont besoin de pouvoir accueillir les élèves et ils n'ont pas de place pour s'agrandir à part l'emplacement où il y a cette chapelle, donc le projet leur appartient. Donc aujourd'hui de toute façon le projet tel qu'il avait été présenté il est mort, voilà, puisqu'il a été refusé par l'architecte des bâtiments de France, donc aucun permis n'a été signé. Il y a des nouvelles discussions qui s'engagent pour élaborer un nouveau projet et moi, j'inviterai le collège et le diocèse à retourner devant les habitants et je les accompagnerai pour éventuellement porter le projet.
Et qu'est-ce qui pourrait remplacer cette chapelle si la destruction aboutissait ?
D'abord,
parce que la ville esquisse.
D'abord, c'était. Non, la ville, elle n'a rien à voir dans ce projet. Ce n'est pas un projet municipal, c'est une parcelle privée, c'est un projet privé. La seule chose qu'on a à dire, c'est si oui ou non, on signe un permis. Moi, cette chapelle, elle n'est pas protégée, ce n'est pas un monument historique, il n'y a rien qui empêche aujourd'hui sa destruction. Donc, c'est au diocèse de se prononcer, véritablement. Et nous, on accompagnera, comme on le fait, tous les projets privés. Ce n'est pas un projet municipal. Et ce n'est pas une volonté municipale que de détruire cette chapelle.
Contrairement à ce que certains peuvent penser.
Oui, mais on voit très bien l'instrumentalisation qui est faite de ce dossier. Il y a tout un groupe qui s'est créé autour d'une mouvance d'extrême droite assez dure, qui utilise ce dossier pour critiquer la municipalité qui chercherait à détruire des chapelles. La municipalité, elle a plutôt tendance à dépenser beaucoup d'argent pour entretenir ses propres églises. Et on n'a pas vocation à détruire des chapelles, d'autant quand les chapelles ne nous appartiennent pas.
Alors on a parlé de l'actualité de la ville du Mans, on va s'intéresser un peu plus globalement à la métropole. Maintenant, il y a quelques semaines avec Stéphane Le Foll, vous avez annoncé un fonds d'aide exceptionnel pour lutter contre la crise du logement. Le Mans n'est pas épargné par cette crise depuis plusieurs mois et l'après-Covid. Un fonds d'aide exceptionnel de 3 millions d'euros. Déjà, quelle est la situation au Mans et dans la métropole pour le logement en 2023?
Elle est la même que dans le reste de la France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une demande très forte de logements, de gens qui veulent venir habiter en ville. Alors, c'est soit des gens qui veulent quitter la région parisienne, soit des gens qui habitent la campagne, qui reviennent vers la ville parce qu'ils pensent que c'est plus adapté à leur vie, notamment avec une prix de l'essence qui augmente, avec la qualité des services qui peuvent être proposés. Ensuite, il y a un deuxième phénomène, c'est les gens qui, suite au Covid, veulent absolument changer de logement. Tout le monde n'a pas vécu la période de confinement de la même façon. Quand on la vit dans une maison individuelle avec un beau jardin, bah, ça a pu être une période heureuse, surtout quand on est en famille. Par contre, quand on est seul, enfermé dans un appartement sans espace extérieur, bah, ça a été une période douloureuse. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui veulent quitter leurs appartements qui ne sont plus adaptés. Donc aujourd'hui, on a à peu près dans les domaines sociaux 9000 demandes de logement sur le Mans qui ne sont pas satisfaites. 4500, c'est des nouveaux. Et 4500, c'est des gens qui veulent changer de logement. Or, aujourd'hui, on ne construit plus assez. Pourquoi on ne construit plus? On a trois phénomènes qui viennent se confronter d'une certaine façon. Première difficulté, ça a été une augmentation très forte du coût de la construction aujourd'hui. L'inflation en matière de construction, elle est énorme. Si on prend un projet, par exemple, comme le projet Natol France, qui est développé par le groupe Legendre, ils me disaient l'autre jour qu'entre le moment où ils ont commencé à travailler sur le dossier et aujourd'hui, ils sont à plus 35% de coûts de construction. C'est énorme. La deuxième difficulté, c'est une raréfaction du crédit. Aujourd'hui, les jeunes ménages n'arrivent plus à avoir accès au crédit. Les banques ont refermé cet accès. Et donc, les notaires me le disent, ils signent beaucoup de compromis de vente qui n'aboutissent pas parce que les jeunes n'ont pas de crédit. Et la troisième difficulté, d'une certaine façon, c'est le prix du foncier qui a tendance à augmenter aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les promoteurs ne peuvent plus construire à Nantes, à Rennes, il n'y a plus de place, donc ils s'intéressent à des villes comme Le Mans, mais le foncier augmente et donc ça augmente le coût des constructions. Vous prenez tout ça mis bout à bout, aujourd'hui la plupart des chantiers sont à l'arrêt et lorsqu'il y a des chantiers où des logements sont mis en vente, ils ne se vendent pas. Et cette situation, elle n'est pas mancelle, elle est nationale. Hier s'est tenu le Conseil national de la refondation initié par le gouvernement sur cette question, c'est exactement le diagnostic qui a été fait. Donc face à un État qui n'agit pas, on le voit hier, puisque les annonces de Madame Borne, c'est vraiment du pipi-tcha, quoi. Tout le monde les critique en disant que ça sera inutile. Nous, on met 3 millions d'euros cette année, 3 millions d'euros l'année prochaine, dépenses exceptionnelles pour soutenir la construction, notamment chez les bailleurs sociaux, en apportant plus d'aide à des projets qui aujourd'hui ne sortent pas à cause des coûts. Et on va apporter également une aide de 8000 euros à chaque ménage qui veut acheter un logement pour la première fois, les primo-accédants, donc il y a des clauses sociales bien sûr, mais ces 8000 euros, ça peut permettre de débloquer le prix. Parce que souvent, vous savez, quand on fait un emprunt, la banque va vous dire « oui, mais vous n'avez pas de fonds propres ». Eh bien, les 8000 euros pourront être considérés comme des fonds propres. On espère avec ça pouvoir sauver un petit peu les meubles au Mans. Je note qu'il n'y a que deux villes en France qui ont pris ce genre d'initiative, Bordeaux et nous.
On va s'intéresser à un dernier chantier de la métropole, puisqu'on est assez rattrapé par le temps. Beaucoup plus clivant cette fois-ci, c'est celui de Trangers et de la base logistique d'une entreprise américaine. Un chantier qui a suscité beaucoup de réactions et de créations de collectifs. Pourquoi avoir voulu soutenir ce projet, Christophe Cunil?
Ah bah moi, je ne soutiens pas ce projet. Je ne me suis jamais exprimé sur ce projet. Et puis, je n'ai pas à m'exprimer. C'est un dossier qui concerne le maire de Trangers. Donc on va laisser au maire de Trangé ses prérogatives. Moi, je suis adjoint à l'urbanisme au Mans. Si je commence à aller regarder les projets qui se font à Trangé, c'est pas très bon. Moi, je trouve qu'on interroge beaucoup les collectivités. Moi, j'aurais aimé qu'on interroge les gens qui ont vendu ce foncier. Voilà. Nous, la Mans Métropole, on avait proposé d'acheter ce foncier. La société qu'il possède, qui est la société Agrial, qui est une coopérative d'agriculteurs, a décidé de le vendre beaucoup plus cher à un promoteur qui y fait un projet qui est contesté. Si nous, on l'avait acheté, on n'aurait pas fait ce projet-là. Donc, très clairement ici, c'est encore une histoire de gros sous d'une coopérative agricole qui a essayé de faire fructifier son bien, et ça se fait au détriment de l'environnement d'une certaine façon.
Parce que c'est un projet qui faisait partie des présentations des chantiers officiels de la métropole que Stéphane Le Foll avait présenté au mois de janvier. Pour beaucoup de riverains, la métropole ne s'est pas opposée à ce projet, ce travaux.
Mais vous savez, en matière d'urbanisme, quelle capacité ont les élus à s'opposer à un projet ? Il faut bien penser une chose, c'est que nous, on délivre des autorisations d'urbanisme, pas sur la base de « ça nous plaît, ça nous plaît pas ». On les délivre sur la base d'un document qui s'appelle le plan local d'urbanisme. Si la construction respecte le plan local d'urbanisme, un élu n'a pas le droit de s'y opposer. Et moi, depuis que je suis adjoint à l'urbanisme depuis 3 ans, j'ai signé un certain nombre de permis qui ne me plaisent pas, mais je serais en tort que de refuser des permis sur la base de mon propre sentiment.
Alors, est-ce que vous, personnellement, ce projet vous inquiète ?
Oui, moi, ce projet, je le trouve d'un autre temps. C'est plus un projet qui est adapté à l'époque d'aujourd'hui. Mais après, aujourd'hui, ce projet, il existe. Voilà.
Merci Christophe Counil
d'avoir
répondu à notre invitation. Maire adjoint au Mans l'urbanisme et vice-président de Le Mans Métropole. C'est une interview que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.